Ali Yeganeh, cinéaste de la cause yézidi.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Un œil perçant vous regarde, et pas seulement parce que nous sommes en plein festival de Cannes. Regard de cinéaste sur le monde comme il va, poétique, dramatique, lyrique. C'est l'histoire d'un cinéaste ayant quitté son Iran d'origine pour faire de l'image sa nouvelle terre d'accueil. Le parcours d'Ali Yeganeh, retenez bien son nom, est à l'image de cette passion pour le bien regarder. Formé à la London Film School, puis à la Southern Methodist University aux États-Unis, un petit peu de sociologie, de philosophie à l'Université de Nanterre en France, un peu beaucoup de géopolitique dans sa poche de Moyen-Orientale, et nous voici au pays de la photo telle qu'il aime la concevoir. Avec son long métrage « Le silence de Cybèle » qui sort ces mois-ci sur nos écrans français, il braque sa caméra au nord de l'Irak sur une toute jeune fille kurde yézidi, enlevée et réduite à l'esclavage sexuel par Daesh. Couronnée de prix aux États-Unis et au Canada, soutenue en France par la Fondation Daniel Mitterrand, ce film reste en nous comme un silence intérieur d'où l'on peut entendre les hurlements de ces milliers de femmes yézidis toujours disparues. À Ceylan, sur RFI néanmoins, avec ses pêcheurs de perles sur un livret de Georges Bizet. Ça date de 1863. Merveilleuse partition servie par Roberto Alagna. Bonjour Ali Yeganeh.
Bonjour, merci pour me recevoir ici.
Pourquoi cette partition ?
Parce que d'abord j'aime beaucoup l'opéra et Bizet plus particulièrement avec ce opéra. C'est l'histoire de l'amour, c'est l'histoire de l'amitié, et puis c'est une histoire de pécheresse incarnée par Leïla, hein, Leïla qui revient très souvent dans la littérature, en arabe, en persan, qui devient Leïli, hein, qui devient Leïli et Majnoun. Et finalement, ces triangles extrêmement étranges, parce que les amitiés entre deux hommes, finalement, est cassée. Parce qu'il y a une femme, toujours encore une femme. Donc c'est l'histoire d'une très grande amitié aussi dans l'amour.
Merci Ali en tout cas de nous rejoindre en sol majeur dans cette émission de portrait qui se balade, vous le savez sans doute, dans notre multiculturalité. Ça c'est pour ne pas dire diversité.
Et comme être ou ne pas être.
Ali Yeghaneh, vous êtes né dans les années 50 en Iran, mais vous êtes parti tôt, vous avez même fait le tour du monde plusieurs fois. Donc je me demandais, aujourd'hui, être iranien, ça veut dire quoi pour vous ?
Être iranien, ça veut dire que j'ai hérité d'une culture assez importante d'Iran et je l'ai avec moi, mais c'est quand même assez loin. Et dans ma carrière, j'ai fait, c'est vrai, plusieurs fois le tour du monde avec beaucoup de films, beaucoup de documentaires, beaucoup de pubs, fiction, etc. Voilà, donc je peux me considérer comme citoyen du monde. Je me sens à l'aise là où je peux faire mes films.
Oui, oui, on va parler de cinéma, je vous le promets.
Mais
attardons-nous juste une seconde quand même. On ne sait pas la préfecture de police, hein, ici c'est juste en sol majeur, mais je vais m'autoriser quand même cette petite question. Vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler un réfugié ici en France ?
Non, pas du tout. Je suis même privilégié, donc je ne mérite pas qu'on pense que voilà, j'étais un réfugié, j'ai fait quand même ma vie avec beaucoup de difficultés. Non.
Vous êtes français aujourd'hui ?
Bah, tout à fait, je suis français.
Comme ça, j'ai ma réponse. Mais pourquoi faire son baluchon systématiquement ? Est-ce que c'était par amour de l'image et du cinéma qui se profilait dans votre vie ?
Tout à fait, parce que vous savez, comme je plante ma caméra devant quelqu'un et je le regarde à travers l'œil tone de la caméra, j'ai l'impression déjà d'être un peu voleur parce que je suis en train de voler l'âme de mon personnage très souvent si je fais des fictions ou même un documentaire. Et donc, je vois une chose qui est pareille partout dans le monde. Je vois tout de suite s'il y a vraiment quelque chose d'humain dans celui ou celle que je filme. Mmh. Et c'est ça qui est le plus important.
Mais vous avez une ville de cœur, je suis toujours au bras du voyageur que vous êtes, vous avez une ville de cœur, Ali Yeghaneh. C'est une ville qu'on connaît bien par ici, qui aime bien discuter d'ailleurs, surtout en mangeant.
Merci. J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Refais ce geste.
On peut avoir un peu de beurre, là, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur.
Merci.
On est avec César et Rosalie, ce film de Claude Sauté. Par conséquent, on est évidemment à Paris. Avant de dire peut-être un mot de ce film, pourquoi est-ce que cette ville, qui est, dit-on, une ville arrogante, pourquoi est-ce que c'est votre ville de cœur ?
Oui, d'abord, merci pour le choix de cet extrait, hein, c'est superbe. Avec la voix inoubliable de Yves Montand.
Et voilà, et Romy Schneider.
Romy Schneider, bien évidemment, excusez-moi, extraordinaire aussi. Et pourquoi Paris ? C'est vrai, cette ville un peu agressive, même de plus en plus agressive. Mais il y a quelque chose à Paris, c'est absolument unique dans le monde. C'est-à-dire de sentir que les gens peuvent vivre, penser, écrire, crier librement. Et là, beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire, ça. Dans beaucoup de parties du monde, déjà de se mettre à la terrasse d'un café, c'est quelque chose de difficile. Dans beaucoup de villes, vous ne pouvez pas faire ça.
Est-ce qu'aimer Paris, c'est aussi aimer le cinéma français ?
Oui, surtout les cinémas de la Nouvelle Vogue, les cinémas...
Vague, tout à en fait, vogue, toujours.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, oui, comment on peut ne pas aimer le cinéma français ? Mais pas forcément les cinémas très récents. En France.
Vous avez du mal avec le cinéma récent ?
Oui, tout à fait. Ça,
pourquoi ?
Il faut que je dise. Parce que c'est tout un autre monde qui n'est pas du tout pareil que le cinéma qu'on pouvait voir.
Une petite pointe de nostalgie. Donc.
Oui, tout à fait. Comme j'ai dit, on est toujours nostalgique. C'est pareil pour moi avec les cinémas italiens, vous savez. Ouais. Le cinéma de Fellini, d'Antonioni, de Pasolini. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on ne le trouve pas vraiment.
On va faire un club de nostalgiques, ça ne va pas du tout.
Non, mais c'est nostalgique, c'est simplement aussi, il y a une réalité dans ce cas où, vous voyez, malheureusement, c'est comme ça.
Comment ce goût du cinéma est né chez vous, Ali ?
Le goût du cinéma était vraiment toujours avec moi. J'ai commencé à faire des films avec une caméra Super 8 à l'âge de 11 ans carrément. Et à l'âge de 14 ans, j'ai formé avec plusieurs autres personnes, plus âgées que moi même, de former un groupe qui est devenu finalement ce qu'on peut appeler le cinéma libre en Iran. C'est-à-dire, c'est un groupe qui faisait des films expérimentaux.
Et on est sous les années du Shah d'Iran.
Tout à fait, juste. Alors voilà. Et donc.
C'était du cinéma, vous diriez, avec le recul, quoi, subversif, qui dénonçait déjà des petites choses sur le.
Oui, absolument. Déjà, à l'époque, sous les régimes, oui, j'avais une tendance de montrer des choses qui n'étaient pas tout à fait peut-être bien vues. Mais bon.
Par exemple,
je me souviens, mon tout premier film. Il y avait une voiture de police qui partait avec une vitesse extraordinaire avec son gyrophare. On ne savait pas ce qui s'est passé. Et puis la voiture s'arrête à un moment donné. Le policier qui descend avec 5-6 glaces, vous voyez, pour que les glaces ne fondent pas, effectivement, la voiture de police allait avec son gyrophare. Donc ça, c'est déjà un message.
C'est presque une BD.
Oui, c'est un film court, mais bon, ces films-là, effectivement, vous avez du mal à les montrer. Voilà.
Mais en tout cas, votre premier grand choc cinématographique, c'est un classique, un film culte. On va écouter là la bande-annonce qui date de 1941. Au moment où on tend un beau microphone à la plus belle voix du cinéma américain.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming to this theater. And I think our Mercury actors make it an attraction. I'd like you to meet them. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction. But frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of ballyhoo. It's a pretty nice ballyhoo. But here are some of our real Mercury people. This is the first time you've seen most of them on the screen. Hey, give Joe a little light. Thanks.
Citizen Kane, donc écrit, réalisé, joué, monté par le meilleur communicant de tous les temps, là, puisqu'il fait son teaser, Orson Welles, il a 25 ans.
25 ans.
Et vous qui n'avez pas seulement aimé ce film, Ali Yeganeh, vous qui l'avez aussi analysé, quelle est à vos yeux sa plus grande qualité?
C'est un film qui peut être analysé sur beaucoup d'angles. C'est un film extrêmement complexe et elle a innové énormément de technique cinématographique.
Il a cassé la chronologie de la
chronologie,
de la
narration avec ses flashbacks, etc. Surtout, l'image qui a apporté énormément, c'est la photo noir et blanc de Greg Toland, héritier de l'expressionnisme allemand, et lui-même Greg Toland a énormément été inspiré par la peinture du XVIIe siècle, à la limite, hein. Chez des gens comme Hontrost, c'est-à-dire une peinture très contrastée. Et effectivement, elle a une autre technique qui a été mise au point dans ce film, ce qu'on appelle une profondeur de champ, c'est-à-dire que vous montrez quelqu'un au premier plan, vous pouvez voir tout ce qui est derrière aussi d'une manière extrêmement nette. Et ça apparaît rien, mais à l'époque, c'était une partie de grammaire filmique.
En fait, c'est un procédé littéraire.
Oui, absolument. Le cinéma, il ne faut pas oublier que dans le cinéma, on a une grammaire. Et les Américains et les Français ont inventé le cinéma, mais les Russes ont énormément contribué avec des gens comme Eisenstein, comme avec Vertov, de créer ce qu'on peut appeler vraiment aujourd'hui une grammaire filmique avec un cinéma de Welles. Et là, on a complété vraiment cette grammaire filmique, oui.
Alors à cette heure-ci, dans Sol Majeur, on sait déjà que vous, Ali Yeganeh, vous aimez le cinéma d'auteur avec un certain alphabet, mais aussi les musiciens dits minimalistes, type Arvo Pärt.
C'est comme cinémascope.
Ce petit tabula rasa d'Arvo Part qu'on salue, grand musicien estonien de quelque chose comme 86 ans, toujours de ce monde.
Toujours, bien sûr.
Pour vous mettre un peu dans le mood de votre casquette de réalisateur et de directeur de la photographie, Ali Yegane, ou de chef-op, hein, on peut dire aussi.
Oui.
C'est quoi le boulot alors de
Je
directeur...
préfère directeur de la photographie. Ah. Chef-op, c'est une appellation un peu à la française. Directeur de la photographie, c'est beaucoup plus... À la limite juste, le directeur de la photographie, si vous voulez, il est responsable technique et artistique dans une œuvre cinématographique pour pouvoir donner un corps à une idée qui peut être au départ l'idée de réalisateur ou de scénariste.
Ce serait quoi l'équivalent dans la littérature ? C'est le style ? C'est ce qui apporte le style ?
Les styles, mais je peux dire que plutôt on va parler de la peinture. C'est la manière dont vous êtes en train de créer du noir et blanc ou de contraste dans le couleur, parce que dans le couleur on a des contrastes. Et la manière dont vous éclairez les tableaux. Je peux vous parler de, par exemple, la manière dont Rembrandt fait ses couleurs. Donc, ce qu'on appelle, nous, techniquement aujourd'hui, la température de couleur. C'est-à-dire que les couleurs sont un peu marron et pas bleu. Parce que si vous faites un peu bleu, vous n'avez plus du tout la même psychologie. Et bien évidemment, ça, c'est le travail de directeur de la photo. C'est lui qui va donner naissance à ce rêve qui était au départ le rêve du réalisateur.
Est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont amené à ce métier de directeur de la photographie ?
Ah oui, absolument, absolument. J'ai eu le plaisir de donner des cours de sémiologie à la Sorbonne pendant un certain moment. Et donc... Mes peintres favoris, surtout, c'est au XVIIe siècle. C'est un siècle où tout change dans la peinture. On va abandonner la peinture classique avec beaucoup de métaphores religieuses. Et d'un seul coup, on va peindre même Jésus d'une manière très réaliste. Et cet réalisme vient du fait que d'un coup, on va commencer à faire... pratiquement l'ombre et la lumière, clair-obscur. Et on donne une réalité à des œuvres d'art qu'auparavant, on n'avait absolument pas ça, cet réalisme. Presque ça va devenir comme la photographie. Et la photographie va arriver à un moment donné, c'est pour cela, à la limite, les peintres ne pouvaient plus faire quoi que ce soit contre la photographie, parce que la photographie montrait vraiment le réel.
Alors, vous avez réalisé beaucoup de documentaires, des fictions sur l'Iran, des séries aussi pour la télévision française et britannique. Je vais m'arrêter une minute en sol majeur sur un documentaire que vous avez réalisé qui s'intitule « Le miroir de Tunis ». Alors, vous ne l'avez pas réalisé,
non,
c'est Raoul Ruiz.
Raoul Ruiz, et que j'ai...
Le très grand Raoul Ruiz.
Tout à fait, j'ai fait la photo et voilà. J'étais conseiller artistique, voilà.
Un film écrit par le grand essayiste poète franco-tunisien Abdelwahab Meddeb, qui, sous votre direction, directeur de la photographie, Ali Yegane, retourne dans son Tunis d'autrefois.
L'approche d'une ville. Lima ou Lisbonne. Kuala Lumpur ou Sydney. Une ville avec des palmiers. San Diego. Miami ou Benidorm. Mais la musique de la radio nous apprend qu'on est dans un pays arabe.
Où que j'aille, cette ville me hante, m'habite, comme l'image des morts qui ne quitte jamais les vivants. Pendant 25 ans, j'ai couru les contrées du monde. Je me suis établi dans d'autres villes d'Orient et d'Occident. En poète, j'ai connu l'épreuve de l'étranger. Enfin, j'ai épuisé la haine du pays natal et me voilà de retour, transfiguré.
Étrange documentaire hein, qui se résume peut-être par cette phrase qu'on entend à un moment donné, phrase du poète qui dit « Ceci n'est pas un film, c'est un texte mystique écrit en arabe à l'aide d'une caméra stylo ».
Stylo. Déjà, si vous me permettez, c'est une fiction, donc ce film. Et Miroir de Tunis, qui date de 1993, c'est les regards de croisée d'un étranger et un exilé. Donc l'étranger ici, c'est Raoul Ruiz, des grands Raoul Ruiz. Et bien sûr, l'exilé, c'est Abdelwahab Meddeb. quand j'entends sa voix, ça me fait vraiment quelque chose. Le caméra stylo veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a commencé avec Raoul de dire la caméra devient à part entière un caractère dans le film. C'est-à-dire elle ne s'arrête jamais dans certaines parties du film. On va décrire avec la caméra comme si on écrivait par exemple le mot « je t'aime ». On imitait cette « je t'aime » avec les mouvements de la caméra. Et bien sûr, le travail d'Abdel Wahab ici, elle va introjeter à travers cette fiction l'islam, le monothéisme, la dispute théologique, la prière, la transe, l'étrangeté, l'exil, la liberté. Vous voyez que c'est un vaste sujet sur un film qui est un film effectivement très métaphorique aussi.
Oui, absolument. Et puis il y a toute une grammaire, la grammaire des yeux, parce que dans ce film il y a un jeu entre le montrer et le cacher, entre ces femmes tunisiennes qui apparaissent, mais qui apparaissent en étant voilées, ou qui apparaissent derrière des alcôves. Est-ce que cette grammaire d'un monde qu'on va dire orienté, oriental, avant même l'apport de la technique, dont vous êtes un maître, Ali Yegane, est-ce qu'elle fait naturellement partie de votre regard?
Oui, vous l'avez très bien écrit, tout à fait. Et surtout dans ces films, vu que je connaissais le monde orient un peu plus que Raoul, effectivement, on a collaboré de telle manière que cette poésie, cette beauté de la ville de Tunis et la texte de Abdel Wahab Meddeb soient mises en valeur par justement le jeu de l'ombre et la lumière toujours, puisque ce n'est pas un film où on a une histoire linéaire, l'histoire est non linéaire, donc le travail d'image sur le film était très important.
Et donc vous voilà réalisateur et directeur de la photographie sur votre long métrage « Le silence de Cybèle ». Août 2014, des djihadistes de Daesh envahissent la ville kurde de Sinjar, chef-lieu des Yézidis, minorité kurdophone du nord de l'Irak. Au nom de leurs croyances, les djihadistes veillent à tout prix à convertir cette communauté. Pour y parvenir, ils fusillent, égorgent, enlèvent des milliers de jeunes femmes pour en faire des esclaves sexuelles. Je viens de lire l'avertissement qui précède la grande scène d'ouverture de ce film, Le silence de Cybèle, où la famille de cette jeune fille va être massacrée.
Stop fucking crying! Stop it! You fucking slag! Look at you! Look where you've ended up! Why are you not wearing your hijab? Huh? Are you a Muslim? For Allah's sake! How dare you! Don't look at me! I'm Abu Rahman! Look away! Look away now!
Un cijvad hoza! Tişti mazidatına ya, megila farka! Benim rahmetine!
L'émir hurle à cette femme yézidi, espèce de traînée, regarde-toi comme tu es tombé bas. Pourquoi tu ne portes pas ton voile? Es-tu musulmane? Ali Yegane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette culture yézidi devenue la proie des fondamentalistes?
Les yézidis sont une communauté kurdophone qui vivent au Kurdistan irakien sur le montagne Sinjar. C'est des gens qui sont vraiment pauvres, ils n'ont pas grand-chose et donc l'attaque qu'ils ont subie de la part de Daesh, qu'on va revenir après, ce n'est pas pour des raisons économiques, mais purement pour des raisons idéologiques. Donc ces yézidis, ils ont une croyance très ancienne, on peut parler de même 4000 ans. Yézidisme, ça veut dire que leur croyance est basée sur l'ancienne religion de l'Iran antique, le zoroastrisme, enraciné aussi un peu dans la chrétienté, dans l'islam, dans le judaïsme. Et bien évidemment, ils ne sont pas musulmans. Et donc, cette communauté sont repliés sur eux-mêmes. Vous ne pouvez pas devenir yézidi, vous êtes né yézidi. Et en tort, beaucoup de monde pense qu'ils sont adorateurs de diable, mais ça c'est tout
enfin,
à fait...
Enfin ça c'est les fondamentalistes qui pensent ça.
Fondamentalistes, absolument, oui, absolument.
Oui. Voilà. Est-ce que vous savez le but de Daesh?
Le but de Daesh est très simple, ils veulent absolument infliger leur croyance à des gens qui croient qu'ils ne sont pas comme eux. Mmh. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de tragédies, malheureusement, dans notre monde. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à cette thématique en particulier, vous, le réalisateur franco-iranien Ali Yighani ?
Bah, c'est très simple, parce que quand cette attaque a eu lieu en 2014, vu que je connais un peu cette partie du monde, ça commence à avoir une répercussion bien au-delà de cette communauté, parce que ces attaques sont devenues vraiment des actes génocidaires qui, d'ailleurs, ont été reconnus par les Nations Unies plus tard, après avoir mené des enquêtes très profondes. Donc voilà, ce qui m'a mené à parler et à travailler sur cette thématique, c'est simplement, je suis un cinéaste, je suis témoin de mon siècle, et donc c'est très simple, c'est pour cette raison.
Comment vous vous êtes documenté pour travailler cette thématique ?
Voilà, pour vous dire la vérité, c'était assez compliqué pour rencontrer des gens qui étaient victimes de ces actes-là. Des femmes notamment, parce que des femmes dans cette partie du monde, elles ne pouvaient même plus aller dans leur propre communauté parce qu'elles étaient rejetées aussi par leur communauté.
Elles sont perdues aux yeux de la communauté.
Complètement, parce que dans cette partie du monde, c'est quand on leur a fait, c'est impardonnable et c'est comme si c'était leur faute.
Donc, oui, perdre sa virginité pour,
perdre sa virginité,
pour dire les choses.
Absolument, absolument, qui est une tragédie. Voilà.
Et alors donc, vous avez réussi malgré tout à trouver des femmes ayant subi...
Tout à fait, avec beaucoup de difficultés. Et on savait qu'en août 2014... Les djihadistes Daesh, ils ont attaqué la ville de Sanjar, ils ont éliminé beaucoup d'hommes, et puis ils ont après allé vers les femmes. À peu près 6000 femmes ont été embarquées, pour la plupart, très jeunes filles. Hein.
Oui,
on
oui.
parle de même.
Ben justement, voilà. Votre Cybèle a 13 ans. Alors justement, après cette scène de massacre qui ouvre le silence de Cybèle, massacre de toute sa famille, le film bascule et zoome donc sur... l'une de ces milliers de victimes, donc votre Cybèle à vous, 13 ans, qui se retrouve en France de quelle manière ?
Voilà, Cybèle avait effectivement même 12 ans, bah après 13 ans comme elle se trouve en France, parce que quand ces filles du Yézidi ont été embarquées par des Daïchis, après les utiliser de leur façon, à un moment donné, ils les vendaient. Ou on leur donnait à des autres qui pouvaient donner quelques milliers de dollars, etc. Et d'ailleurs, c'est une histoire vraie. Il y avait des centaines qui ont été achetées soit par leur famille, soit par des gens qui voulaient les libérer. Et l'histoire de Cybèle, c'est parmi l'une de ces situations où une femme d'origine française et kurde elle-même, elle paye un rançon quelques milliers de dollars pour libérer, enfin entre guillemets, pour libérer la jeune Cybèle. Et la question centrale du film est la suivante. Malgré le fait que vous avez libéré cette fille, vous l'amenez chez vous en France, dans une très jolie ville, et vous lui donnez la possibilité pour qu'elle puisse épanouir dans une très jolie maison, etc. Est-ce que cette fille peut avoir un avenir encore ? Voilà la question.
Alors la jeune femme dans votre film qui va effectivement payer une rançon pour libérer Cybèle, elle s'appelle Anna, et pour faire face à cette situation difficile, elle s'entretient avec une assistante sociale.
Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu une situation pareille. Il faut que vous m'aidiez à comprendre. J'essaie moi aussi de comprendre. De la comprendre. Mais j'y arrive pas bien. Rien ne la calme. J'essaye de me mettre dans sa peau. Je m'imagine subir les choses qu'elle a subies. Je sais, c'est un peu fou. Mais c'est mon seul moyen de me rapprocher d'elle. Sa vie est un calvaire. Même prendre une douche est difficile pour elle.
Pourquoi ?
Elle a été victime d'agressions et de viols à répétition. Et comme les autres filles, elle a refusé de se laver. Pour éloigner ses bourreaux, pour se protéger, mais... Même en faisant ça, ça ne changeait rien. Ça ne les arrêtait pas.
Vous êtes toujours là ?
Oui, oui.
Non. Je ne crois pas. Vous êtes tellement prise par ces événements que vous êtes en train de vous confondre avec elle. Ça vous permettra peut-être de l'aider, mais je ne trouve pas ça très constructif.
Geçamen. Sibel. Sibel.
Et oui, nous aussi, on se pose la question du côté d'un sol majeur, comme l'assistante sociale dans votre film, Ali Yeganeh. Pourquoi Anna, cette jeune femme qui a certes des origines irakiennes, qui connaissait aussi la famille de la jeune Sibel, pourquoi est-elle dans ce lien si ténu avec cette jeune fille qui a été esclavagisée par Daesh? Pourquoi est-elle en train de se confondre avec Sibel?
Parce que Anna représente l'autre côté de Sibel. Anna est devenue une femme libre, elle a fait des études, elle a le pouvoir. Je veux montrer que Anna, comme elle a ce pouvoir, elle veut donner aussi quelque chose à celle qui n'avait absolument rien, aucun choix dans sa vie.
C'est une réponse à la soumission.
C'est une réponse à la soumission. Merci pour, vous l'avez très bien analysé. Et c'est elle qui essaye de vraiment prouver, même à elle-même, qu'elle peut faire ça.
À noter la belle présence de Laetitia Edo, qui joue Anna.
Très bien, tout à fait.
Et de Mélissa Boreau, qui joue Sibel. Et je me demandais justement quelle avait été la difficulté du casting pour trouver cette jeune fille.
Oui, déjà, effectivement, Laetitia Edo, une actrice internationale qui a très bien fait ce rôle-là. Donc, par contre, pour le Mélissa Bros, qui n'était absolument pas actrice, on avait cherché des dizaines et des dizaines de filles qu'on a castées, qui a duré une année. Et au bout de cette année, on a compris qu'elle peut vraiment faire ce rôle-là.
Pourquoi ?
Parce que j'avais très peur de lui faire mal, parce que le rôle était un rôle extrêmement costaud et psychologiquement très chargé, donc il fallait lui dire peu à peu de quoi il s'agit et pas d'un seul coup. Et très souvent, je lui disais non, je ne peux plus travailler avec toi, je voulais savoir si elle veut vraiment travailler.
Ah, vous l'avez mise à l'épreuve.
Absolument.
Alors vous avez fait le choix d'un silence linguistique parce que votre Sibel continue d'échanger dans sa langue avec sa mère, qui n'est plus de ce monde, donc on est dans des moments comme ça d'hallucination. Mais Sibel comprend la langue française, donc pourquoi ce choix de silence linguistique?
Parce que Sibel choisit le silence, c'est une seule manière pour elle de pouvoir survivre. Parce que son silence, c'est une manière de dire aux autres que je ne peux pas appartenir à une société dans laquelle je ne me sens pas à l'aise.
Et pourtant, la société dont elle vient a détruit sa famille, a détruit quelque chose de son intériorité de femme. Mmh. Elle pourrait aussi être dans le rejet de sa société d'origine.
Seulement, on oublie qu'elle pense à sa famille. Cette société dans laquelle elle vivait, c'était très bien. Jusqu'à un moment, une seule journée, comme les Daïchis arrivent et ils détruisent tout. Sur une ou deux ou trois journées. Donc, ce n'est pas une société. Leur société, en tant que telle, surtout pour un enfant, était extraordinaire. Elle cherche sa mère.
Alors, ce qui frappe dans votre film Le silence de Sibel, c'est ce grand décalage entre le monde et la culture yézidi laissée en Irak, entre le trauma intérieur qu'elle vit suite à ces viols de la part des djihadistes de Daesh, et le cadre français, très ordonné, très bourgeois, qui veut lui offrir, ça fait presque sourire, une vie normale. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez mettre en scène ce décalage?
Je voulais montrer, parce que par le passé, j'avais fait plusieurs films aussi sur l'exil et de gens venant de différents pays. On imagine l'histoire de l'immigration, comme vous venez dans un autre pays, même si on vous donne un peu d'argent, on vous donne quelque chose, ça y est, tout est réglé. Non. L'exil, c'est quelque chose de terrifiant, c'est une sorte d'aliénation avec soi-même. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'adapter à ça. Et dans le cas de notre personnage Sibel, c'est encore beaucoup plus gravissime. Elle n'a rien demandé. On le détruit en le violant dans son âme et dans son corps. Et après, on le fait venir dans un pays qui n'est pas le sien. Elle ne comprend rien. Je vous réfère dans la scène de château comme elle se promène. Effectivement, ce château peut être extraordinaire pour une Française ou un Français, mais pour elle, ça ne veut rien dire. Et n'oublions pas, elle est un enfant. On veut démontrer que ce qu'ils ont fait, les Daïchis, ils l'ont fait contre des enfants, pas seulement contre des adultes.
Donc le message de ce film, c'est que une vie normale dans un pays où il n'y a pas la guerre, une vie normale ne peut pas être réparatrice d'un tel traumatisme.
Absolument pas. Parce que ce traumatisme est tellement intérieur qu'il est hors de question avec seulement des moyens matériels, on peut mettre fin à cette angoisse, à ces conflits entre soi et soi-même. C'est impossible. D'ailleurs, vous avez vu qu'avec la communication qui est là, elle ne pense pas que même ses parents sont morts. Elle pense qu'ils sont toujours là, quelque part. Elle va le rejoindre à la fin. Donc,
Oui, alors après, on est dans un monde... Vous n'ouvrez pas la porte véritablement de ce monde, mais vous le suggérez quand même. C'est peut-être le monde de l'invisible. Elle vient d'une autre culture. Elle va y retourner. On ne va pas dévoiler la fin du film.
Non,
mais d'une
non.
certaine manière, elle y retourne de façon tragique.
Tout à fait.
Vous faites le choix, en tant que metteur en scène, évidemment, de ne pas montrer les scènes de viol. Vous faites des choix aussi en tant que directeur de la photographie, Ali Yeganeh. Oui. Cette casquette vous va tellement bien. Vous cadrez par exemple le chef djihadiste en soulignant le contraste entre le noir de sa barbe et de son turban et le bleu, très très bleu, de ses yeux.
Oui.
Il n'y a pas de message subliminal.
Tout à fait, tout à fait. Pourquoi cette contraste? Parce que souvent les gens n'associent les méchants avec les orientaux, les gens qui ont un peu la peau noire. Et alors non, parce que je vous fais rire peut-être, ou même pas, les nazis, ils ont fait les pires atrocités et normalement, ils étaient des blondes avec des yeux blonds.
Oui, les monstres, c'est vous et moi. Hein.
Oui, voilà, tout à fait.
Potentiellement.
Donc déjà ça. Et puis, n'oublions pas que les contingents de Daesh, il y a eu 40 000 personnes de plus de 100 pays. Et parmi ces gens-là...
Il y avait des yeux bleus.
Des yeux bleus, mais beaucoup d'yeux bleus, c'est pas un problème, donc voilà.
Et ça me permet d'évoquer avec vous, on a choisi ensemble trois scènes de ce silence de Cybèle, où il y a votre signature de directeur de la photo. Alors la première scène, vous êtes prêts? On va envoyer la bande-son. Elle se passe dans cette nature verdoyante du Zerche, c'est en Corrèze, hein, en France, c'est le soir tombant. Cybèle est en voiture et elle a envie de vomir. Et Anna arrête la voiture. Elle doit lui annoncer la terrible nouvelle.
Viens, faut que je te parle.
Elle est Yeganeh.
Effectivement, cette scène, c'est une scène clé. Parce que, vous voyez, la caméra ne bouge absolument pas ici. Comme d'ailleurs, beaucoup de scènes. Je ne voulais pas donner cette image que, parce que l'histoire est basée sur la vérité, dont on fait... une sorte de documentaire, la caméra va bouger dans tous les sens, pas du tout. La caméra reste absolument avec les mêmes images tout le temps, mais si vous avez remarqué, le côté gauche de l'écran, le soleil est presque en train de partir, et l'autre côté, il y a un arbre. Cet arbre symbolise l'arbre de la vie.
La terrible nouvelle étant que Cybèle est enceinte.
Est enceinte, et elle n'en veut pas, parce qu'il y a un corps étranger dans son... corps à elle, qui d'ailleurs, elle, c'est un enfant. Elle ne peut pas l'accepter.
Autre scène, toujours je m'adresse au directeur de la photographie, c'est au tout début du film, une scène avec des brebis.
Ah, parce que dans ce film, il n'y a pas de surprise. Dès l'ouverture de ce séquence, les brebis symbolisent dans toutes les religions, effectivement, le sacrifice. Après, le plan d'après, c'est Cybèle. On sait qui va mourir. Qui va être sacrifié.
Elle cueille une pomme.
Elle cueille une pomme. Les pommes ont beaucoup de signification, même dans l'histoire de peinture classique. Mais les pommes ici, ça symbolise, c'est vraiment, c'est la vie.
Ouais, c'est la vie ou c'est le péché?
Les deux.
Originel.
Oui, vous pouvez bien...
Le clin d'œil, peut-être.
Je vois que vous avez... J'aurais bien voulu avoir plusieurs sessions ici pour parler de tout ça.
Et puis, il y a une troisième scène qu'on peut évoquer pour un seul majeur. C'est cette scène où elle brûle des photos d'identité.
Oui, c'est une scène extrêmement importante parce que ce film est sur l'identité. Vous savez, dans le charte des Nations Unies, le génocide n'est pas seulement considéré comme vous éliminez tout le monde physiquement. Le génocide, l'un des éléments de génocide, c'est aussi le vol des identités culturelles, comme vous êtes en train de détruire une culture. Eh bien, Cybèle va brûler cette photo qui reflète sa nouvelle identité qui est étrangère à elle. Et elle va après se mettre ses vêtements traditionnels. Et ça, c'est très important.
Je le disais au tout début, dans ce hurlement que l'on entend en fait au cœur du silence de Cybèle, on peut détecter justement les hurlements de toutes ces femmes enlevées et de tout ce peuple yézidi lui-même massacré. Puisque ce mot de génocide si difficile vient d'être prononcé, à votre demande, Ali, je vais actionner la machine à remonter le temps du côté de Nuremberg. Nuremberg, les nazis face à leurs crimes. Un documentaire de Christian Delage où on nous explique que pour alimenter le procès, à l'époque, il fallait des preuves. Il fallait montrer les images des camps de concentration, parce que quand on dit camps de concentration, c'est abstrait. Il faut montrer les images, elles étaient tournées en 1945 par les armées alliées, dans un procès qui s'est organisé pour une première fois autour d'une projection.
The camp is chosen for a high command inspection led by General Dwight D. Eisenhower. Also present are Generals Omar N. Bradley and George S. Patton.
Le camp est choisi pour une inspection du haut commandement, menée par le général Dwight Eisenhower. Sont aussi présents les généraux Bradley et Patton. C'est la 4e division blindée de la 3e armée de Patton qui a libéré ce camp au début du mois d'avril.
The 4th Armored Division of General Patton's 3rd Army liberated this camp early in April. They see the woodshed where lime-covered bodies are stacked in layers and the stench is overpowering.
Ils découvrent les baraques où sont entassés des cadavres couverts de chaux vives et dont se dégage une puanteur suffocante.
American congressmen invited to view the atrocities were told by General Eisenhower, "Nothing is covered up. We have nothing to conceal."
Aux membres du Congrès invités à constater les atrocités, le général Eisenhower a déclaré : rien n'est masqué, nous n'avons rien à cacher. Le traitement barbare infligé à ces gens dans les campements allemands est presque incroyable.
The general and his party next see the crude woodland crematory, actually a grill made of railway tracks.
Le général et la délégation ont ensuite constaté l'horreur des crématoires faits de bois, un enchevêtrement de rails. Des restes calcinés de prisonniers gisaient encore sur ce grill.
Charred remains of several inmates still lay heaped atop the grill.
Avec cette question pour un sol majeur, que vous évoque ce procès de Nuremberg, Ali Yeganeh ?
Vous savez, ces procès, c'est tellement important. C'est l'un des événements politiques, quand j'ai lu l'histoire, qui m'a bouleversé le plus, pour une raison très simple, que finalement, les bourreaux doivent se rendre compte à un moment donné. Et pour ça, il faut prouver qu'ils ont commis les impardonnables. Et donc, ces procès montre qu'à un moment donné, pour les autres génocides qui sont arrivés après, malheureusement, les gens qui ont commis toutes ces horreurs, il faut qu'un jour, ils puissent se rendre compte. Voilà.
Donc votre fiction, Le silence de Cybèle, n'est pas évidemment une preuve. C'est une fiction, mais vous pensez que ça peut amener à une conscientisation de ce qui se passe autour du peuple yézidi aujourd'hui ?
À 100%, moi, il sensibilise énormément. Parce que je trouve que la fiction peut parfois être beaucoup plus puissante qu'un documentaire.
Que savez-vous de vos ancêtres?
Vous savez, moi je me considère membre de l'humanité. Et donc l'ancêtre pour moi, on est tous venus du même endroit au monde. Et ça fait que nous sommes tous de même race. Et d'ailleurs, il y a une chose, si on a le temps, dans la technique cinématographique, quand on fait l'étalonnage, ça veut dire comment on équilibre les couleurs par la peau, il y a quelque chose de très intéressant. La teinte chair a beaucoup de rouge, hein, vous voyez, dans la teinte chair. Et quel est l'intérêt de cette teinte rouge dans la peau des différentes races? Eh bien, figurez-vous, c'est 70% du rouge partout, même chez un noir, chez un blanc-blanc, chez un chinois. Et ça, c'est le sang. Et si n'est-ce pas, tourne, c'est sérieux,
voilà,
c'est
si superbe. Si on fait de l'étalonnage poétique, on atterrit éventuellement du côté d'un poète que vous aimez bien, perse du XIIIe siècle, un certain Saadi, qui a chanté l'humanité, qui a chanté le genre humain.
Absolument. Donc je me permets, si c'est possible, de le lire d'abord en persan.
Toujours
et puis,
possible
vous
en sol ben,
c'est,
majeur.
C'est superbe. Donc... بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. Les descendants d'Adam sont membres d'un seul corps car ils furent créés d'une seule et même essence. چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. Que le destin d'un jour fasse souffrir un membre, alors les autres membres en seront affligés. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامند نهد آدمی. Si tu ne souffres pas de la souffrance des autres, tu ne mérites pas d'être appelé humain. Et ce vers s'est inscrit sur le fronton de l'ONU. Mais est-ce que malheureusement, tout le monde le respecte? Pas du tout.
Oui, mais vous savez ce qu'on dit.
C'est superbe.
La France, c'est le pays de la Déclaration des droits
de l'homme,
mais ce n'est pas le pays des droits de l'homme.
Des droits de l'homme.
C'est tout le chemin à faire. Merci à vous. Je rappelle que votre film Le silence de Cybèle sort en salle en France ce mois-ci. Elle y est gagnée. En sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio. Théoraison, Yasmine Chouaki. Alors samedi prochain, je vous embarque au bras de la belle Marilou Marini, une comédienne argentine. Place dans quelques secondes à Orchestra Baobab avec Douga, suivi de votre journal et de tous les cinémas du monde.
Oh, not too much. You got nothing.